santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Le virus H1N1 a fait près de 2200 morts et plus de 200 000 malades dans le monde. Des chiffres approximatifs car tous les cas ne sont pas déclarés. Aucune région du globe n'est désormais épargnée par la pandémie. Le gouvernement français a déployé d'énormes moyens pour lutter contre ce virus. 1 milliard de doses de vaccins ont été commandées par les pays de l'hémisphère nord. Alors est-ce qu'on n'en fait pas trop? Je ne voudrais pas d'ailleurs contribuer à la psychose générale en vous proposant dans Priorité Santé une émission donc sur cette grippe A. Mais en une heure, nous allons donc avoir le temps d'y voir plus clair. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions au professeur François Bricaire, qui est mon invité. Il est chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, un numéro de téléphone pour cela, le 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous ferons un état des lieux de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie. Nous entendrons le point de vue du professeur Marc Gentilini, qui trouve que le gouvernement français en fait un peu trop sur cette question. Nous verrons comment le Sénégal se prépare à l'arrivée de cette épidémie. Et nous entendrons également le témoignage de Sarah, une jeune lycéenne de 17 ans qui a contracté la grippe A sur l'île de la Réunion. Professeur Bricaire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Tout d'abord, quels sont les symptômes de cette grippe A ?
Eh bien, ce sont des symptômes, j'allais dire, d'une banalité tout à fait grande, puisque ce sont des symptômes que l'on qualifie par définition de grippe, de la fièvre, mal à la tête, des courbatures, et puis aussi, et c'est ce qui définit une grippe, des signes respiratoires. On tousse, on peut être éventuellement gêné pour respirer. Mais ce qu'on peut surtout dire, c'est que ces symptômes majoritairement sont bénins, c'est-à-dire assez faibles, et que en plus de cela, ils durent relativement peu de temps dans la majorité des cas.
Les mêmes symptômes que la grippe classique.
Oui, à la différence peut-être qu'on a insisté sur l'existence éventuelle chez certaines personnes de quelques troubles digestifs.
Quel est le traitement ?
Alors le traitement, j'allais dire, c'est pas grand-chose ou rien, comme bien souvent, exactement, le lit, un peu de le grog, et puis les choses s'arrangent toutes seules. Ceci étant dit, et comme on l'a largement diffusé, il y a des antiviraux, dont le Tamiflu, qui peut être utilisé, mais qui a été peut-être moins utilisé parce que la grippe est bénigne et que par conséquent, il n'y avait peut-être pas nécessité de le faire systématiquement. En revanche, dans des formes un peu sévères ou chez des sujets qui sont à risque de faire des complications, alors on leur prescrit cet antigrippal qu'est le Tamiflu.
Cette grippe est-elle très contagieuse ?
Alors elle est contagieuse, effectivement, si le virus n'est pas très virulent, autrement dit très agressif. Par contre, il se diffuse très bien dans la population, raison pour laquelle, eh bien, dans tous les pays qui sont concernés, il y a beaucoup de cas et probablement plus que ceux que vous avez annoncés puisqu'on ne les relève pas.
C'est ça, on n'est pas... Est-ce qu'on connaît un peu la durée de vie de ce virus H1N1 par exemple sur les bonnettes devant nos micros, si jamais on postillonne qu'on a le virus, est-ce qu'on le passe au voisin qui arrive une heure après?
C'est possible que le virus perdure. Maintenant, ça dépend des conditions de température, des conditions d'hydratation, le support sur lequel il est, mais il peut durer pendant plusieurs heures, à part fois même plusieurs jours.
Peut-on attraper cette grippe A deux fois de suite ?
Alors normalement, non. À partir du moment où on fait la grippe A, on développe des anticorps, donc une protection contre le virus, et il n'y a pas de raison de recommencer.
Quand on commence à se sentir mal, qui consulter, que faire ? Alors on va parler de la France hein, pour l'instant.
Oui, alors en France, il a été décidé que, bien entendu, c'était la médecine de ville qui venait en première position, donc autrement dit, de téléphoner à son médecin traitant qui gère parfaitement les situations dans ce genre de circonstances.
Et c'est lui qui va voir si c'est une grippe A ou une grippe classique, ou on cherche finalement même pas maintenant à distinguer l'une de l'autre?
Non, on ne cherche même plus parce qu'il faudrait faire des tests qui mettent du temps d'abord à revenir et qui en plus sont complexes et chers. Donc autrement dit, dans les périodes de pandémie telles que nous la vivons actuellement, tout syndrome grippal est susceptible d'être une grippe A. En dehors de quelques circonstances spéciales où on fait des recherches dans certains groupes communautaires où c'est important de le savoir, eh bien à ce moment-là, on considère que c'est une grippe et le médecin traitant prend les décisions nécessaires et en particulier vis-à-vis des personnes fragiles.
Donc en fait, on a renoncé à l'examen de laboratoire systématique. Ce serait
trop compliqué. Systématique, oui. On peut en faire, dans certaines circonstances, on en fait, mais pas systématique.
Vos questions par téléphone au 33 1 56 40 18 22 ou par courrier électronique à priorité.santé@rfi.fr.
Je vous propose maintenant de partir pour l'île de la Réunion où c'est l'hiver austral, donc l'épidémie, je dirais, est en pleine expansion en ce moment. Sarah, bonjour.
Bonjour, oui.
Vous avez eu cette grippe A. Comment ça s'est manifesté ?
Bien comme une grippe à peu près normale, c'est une grippe saisonnière, parce que ça se manifeste par le rhume, par des courbatures, par de la forte fièvre et un mal de gorge.
Comment avez-vous su que c'était une grippe A ?
Eh bien en fait, je n'en suis toujours pas sûre, parce que donc je suis allée aux urgences quand mon état s'est aggravé. Et c'est aux urgences, sans prise de sang ni quoi que ce soit, qu'on a détecté que c'était la grippe A, mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre une grippe A et une grippe saisonnière. On ne fait pas de prise de sang, donc on m'a dit grippe A. Je pense qu'on peut faire de la grippe A par rapport à l'actualité dans ce moment, mais ça aurait très bien pu être une grippe saisonnière.
Est-ce que vous avez eu peur ?
Peur ? Pas vraiment au début, parce que bon, c'était la grippe A, c'était pas non plus la grippe aviaire, donc il n'y avait rien de très grave dans la mesure où les personnes étant décédées de cette grippe étaient des personnes qui avaient déjà à l'origine des complications. Donc, pas vraiment peur, mais c'est vrai que quand j'ai dit à l'urgentiste que je faisais de l'asthme, c'est vrai qu'il m'a fait quand même les gros yeux, mais de là à avoir peur, non, pas vraiment.
Professeur Bricaire, effectivement, l'asthme, c'est du coup à surveiller un peu plus.
Oui, l'asthme est potentiellement un facteur qui peut accentuer les symptômes de la grippe.
Quels sont les traitements que vous avez suivis ?
Les traitements sont ceux attribués pour une grippe saisonnière. Donc j'ai eu du paracétamol, j'ai eu du rhinoflimicil, l'ellicidium, enfin tout ce qui est conseillé pour une grippe saisonnière.
Vous êtes resté combien de temps au fond de votre lit ?
Ouf, en fait ça avait commencé depuis un moment, mais je n'étais pas allée, je me suis dit c'est une grippe comme j'en ai tout le temps, j'ai pas pensé à la soigner. Mais on va dire que depuis que j'ai eu les médicaments, en 2 jours j'étais rétablie.
Est-ce que vous avez contaminé votre entourage ?
L'entourage, effectivement, le principe de la grippe A, c'est que c'est très contagieux. Ce qui fait que la plupart des gens que je côtoyais avant de savoir que j'avais la grippe A, je les ai à peu près tous contaminés.
Et dont votre maman, je crois.
Dont ma mère, oui, que j'ai contaminée. Et donc, on se retrouvait toutes les deux en quarantaine. Oui.
Comment allez-vous ? Et d'ailleurs aussi, comment va votre maman ?
Et moi, je vais beaucoup mieux. Enfin, ça reste une grippe. Donc, une fois qu'on en sort, il n'y a pas de séquelles. Sur après, donc ce qui fait que maintenant je vais très bien. Et quant à ma mère aussi, elle s'est très bien rétablie et maintenant tout va bien, oui.
Sarah, merci beaucoup. On vous laisse repartir en course, que pour l'île de la Réunion, c'était merci. Juste l'heure du déjeuner. On sait que vous avez un cours tout de suite à 30. Merci beaucoup. Professeur Bricaire, justement, quelles sont les personnes à risque ? Là, on l'a bien vu. Pour Sarah, ça s'est très bien passé.
Très bien. C'est la parfaite illustration de ce qu'on disait, c'est-à-dire dans toutes ses caractéristiques. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles et qui sont susceptibles de développer des formes plus sévères de grippe. Ce sont les insuffisants respiratoires d'abord, et puis tout ce qui touche à des pathologies de type cardiovasculaire, des insuffisants rénaux. Puis il y a des populations qui sont au risque, et en particulier, on y insiste tout à fait nettement, ce sont les femmes enceintes.
Et ça c'est une particularité probablement de ce virus.
Pas de ce virus,
de
la grippe en général, mais ça se vérifie pour ce virus-là, et c'est pour ça qu'il faut prendre un certain nombre de précautions. Et puis il y a des...
Ça veut dire quoi ? Une femme enceinte qui d'un seul coup se sent pas très bien et fiévreuse, alors pour le coup il faut qu'elle consulte très vite, il faut qu'elle aille à l'hôpital, quel est le circuit là ?
Il faut que l'on parle par son médecin traitant, et à ce moment-là, là encore, on prend les mesures nécessaires, à savoir la thérapeutique.
Les enfants, les personnes âgées, sont-elles aussi des personnes à risque ?
Alors, sur le plan de cette grippe, cette grippe A, les enfants sont effectivement eux aussi à risque. C'est pas un risque absolument majeur, mais c'est un risque, et c'est dans ces populations-là qu'il y a des risques de faire des surinfections ou des formes plus sévères. Pour les personnes plus âgées, il n'y a pas une aggravation ou un risque supplémentaire par rapport à ce que donnent les grippes saisonnières. Les grippes A actuellement, chez les personnes de plus de 60 ans, finalement, ne sont pas des grippes à complications très important.
Mais il y a tout de même eu des décès sur des jeunes adultes en bonne santé.
Oui, justement, jeunes adultes. Alors c'est vrai, les populations, la majorité des cas de grippe qu'on constate actuellement, c'est dans la tranche 20-40. Donc ça veut dire que cette population n'a jamais rencontré une ressemblance avec ce virus de grippe, n'a pas de protection, n'a aucune immunité et est donc susceptible de faire davantage de formes, d'abord, davantage de cas, et deuxièmement, peut-être des formes plus sévères.
Priorité santé, Claire Hédon.
Un simple éternuement, c'est plusieurs milliers de microbes dispersés dans l'air.
Face à la grippe, des gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir à usage unique. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains. En cas de symptômes grippaux, appelez votre médecin traitant. Contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Les gestes de chacun font la santé de tous. Stop au virus de la grippe. Pour toute information, www.pandémie-grippale.gouv.fr ou 0825 302 302, 15 centimes d'euros la minute depuis un poste fixe.
Aujourd'hui, je reçois le professeur Bricker et justement, nous faisons le point sur cette grippe A. Finalement, quand on entend ce genre de message, ça rappelle les gestes de bon sens, du genre de se laver les mains, se moucher dans un mouchoir, ne pas éternuer à la figure des gens.
Absolument, absolument. On répète des choses ou on remet en situation des choses qui étaient habituelles. Comme je le dis souvent, que nos grands-mères nous apprenaient, lavez-vous les mains, ne toussez pas sans mettre la main devant la bouche. Alors là, on modifie un petit peu.
Parce qu'on dit que c'est le coude,
oui,
hein, c'est le bras.
Oui, pour éviter justement que le virus qui est mis assis sur les mains soit transmis à la personne à qui on va serrer la main, à qui on ne devrait peut-être pas serrer la main, justement.
Alors je vous propose maintenant de voir ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, hein, où 15% de la population aurait été en contact avec le virus. Suzanne Chanteau, bonjour.
Bonjour Claire Hédon.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous êtes directrice de l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. On vient d'ailleurs d'annoncer 2 décès supplémentaires en Nouvelle-Calédonie. On en est, je crois, 7, c'est ça?
Oui, aujourd'hui, nous avons fait le point. Nous sommes maintenant à 7 décès en Nouvelle-Calédonie, avec surtout des personnes qui présentaient des facteurs de risque.
Alors, est-ce que c'est inquiétant, ces décès?
Bien sûr que c'est malheureux de constater des décès, mais c'est un chiffre qui est 7 décès sur à peu près 40 000 cas estimés de grippe, ce qui est peu. Je pense que la population est certes inquiète, mais pas tant que ça, parce qu'elle est très informée au quotidien par le gouvernement de la situation et des mesures à prendre.
Les autorités sanitaires, justement, arrivent-elles à faire face ?
Je trouve que oui, et ça depuis le début de l'annonce de l'émergence de ce virus, les autorités calédoniennes, avec l'aide de l'État et l'Institut Pasteur comme laboratoire de référence, ont réagi très vite. On a constitué un comité de pilotage et on a suivi cette évolution de la situation au quotidien. Et je trouve que ces autorités ont très bien géré et bien communiqué également.
Et ça veut dire que la vie continue finalement tout à fait normalement ?
Oui, on craignait beaucoup de ce pic épidémique et finalement aujourd'hui nous sommes sur la décrue. Le pic se situe à peu près à la moitié du mois d'août, à la mi-août. Certes, il y avait quelques difficultés dans les entreprises, mais pas tant que ça, et je trouve que ça s'est relativement très bien passé.
Qu'est-ce qui vous fait dire justement que le pic est passé ?
Il y a donc des indicateurs tels que l'absentéisme scolaire, tels que le nombre de consultants dans les centres de traitement grippe qui ont été créés dans les deux hôpitaux. Il y a aussi le nombre de consultants parmi dans les centres sentinelles, chez les médecins généralistes. Donc c'est tous ces marqueurs qui ont permis aux épidémiologistes de la DAS de tracer des courbes par semaine et de voir que cette courbe baisse depuis la semaine dernière.
Professeur Bricker, ça montre que ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on arrive à s'en sortir, quoi.
Tout à fait. D'abord, c'est je voudrais saluer
Suzanne. Vous connaissez, Chanteau, je crois.
Absolument. Et de dire que oui, là encore, on est sur une illustration tout à fait positive de... Alors, on craignait un petit peu tout ce qui pouvait se passer dans l'hémisphère sud. Bon, il y a une extension du virus, l'apparition de l'épidémie, et puis les choses se font. Et je suis en particulier très content d'entendre que finalement, les mesures prises ont permis de contrôler et de ne pas entraîner des conséquences majeures sur la vie de la population.
Ça, et pas trop d'inquiétude, c'est ce qu'on entend aussi. Finalement, la population a été rassurée. Quel a été, Suzanne Chanteau, le rôle de l'Institut Pasteur, justement, dans cette épidémie ?
Alors, l'Institut Pasteur est le laboratoire de référence pour la grippe en Nouvelle-Calédonie. Et donc, à ce titre-là, nous nous étions préparés à l'éventuelle arrivée de la grippe aviaire et c'est pour cela que dès le mois de mai, quand nous avions reçu les premiers réactifs des États-Unis, nous étions prêts à transférer la technique, donc prêts à confirmer l'arrivée de la grippe. Et de ce fait, nous étions totalement indépendants de laboratoires externes, contrairement à beaucoup d'États du Pacifique Sud qui doivent envoyer leur prélèvement en Australie et attendre 15 jours, 3 semaines pour une confirmation.
C'est ça. Donc, Suzanne Chanteau, ce qui est très important, c'est que ces instituts Pasteur, il y en a dans le monde entier, en tout cas dans beaucoup de pays. Et ça, c'est une grande force dans ce genre d'épidémie parce que vous échangez, je dirais, les bonnes pratiques aussi.
Effectivement, nous sommes un réseau d'une trentaine d'instituts Pasteur dans le monde et ces laboratoires ont été équipés, le personnel a été également formé depuis quelques années pour la grippe aviaire et donc comme je disais, cette préparation nous sert aujourd'hui pour la grippe porcine.
Suzanne Chanteau, merci. Je rappelle donc que vous êtes directrice de l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie à Nouméa. Merci beaucoup et donc bon courage à vous pour la suite de cette épidémie. Professeur Bricker, une des réponses aussi à cette épidémie, c'est le vaccin. Alors, est-ce que ce vaccin d'abord va être efficace ?
Oh, il a toute chance de l'être. Les laboratoires fabricants ont beaucoup, beaucoup travaillé pour faire en sorte que les processus soient accélérés dans quand même toute la sécurité nécessaire pour avoir un vaccin de qualité. Le virus n'a pas muté pour le moment.
C'est important de le rappeler.
Oui, à ce jour, il n'a pas muté. Et quand bien même muterait-il un petit peu, que très vraisemblablement, ce vaccin sera efficace.
Il sera disponible quand ?
Alors déjà les premières doses semblent commencer à apparaître et à être livrées dans les pays qui ont fait des commandes. Ça aura une montée en puissance et je pense qu'en octobre on devrait pouvoir vacciner.
Professeur François Bricker, on se retrouve après les informations, toujours pour parler de cette grippe A. On parlera justement de la stratégie de vaccination. On entendra le point de vue du professeur Gentilini et puis on verra aussi ce qui se met en place au Sénégal. Vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.